Aligre FM 93.1.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Aligre FM, émission Lusitania, votre émission sur les cultures lusophones. Je suis Anna et aujourd'hui, accompagnée d'Enrico à la technique et d'Elena au micro, nous avons le plaisir de partager avec vous une interview enregistrée au préalable avec Regina Pessoa, figure majeure du cinéma d'animation portugais. Notre rencontre a lieu quelques jours après le Festival international du film d'animation d'Annecy, l'un des plus prestigieux dans ce domaine du cinéma. Cette année de 2024, le Portugal a été le pays à l'honneur et Regina a eu une place très spéciale. L'artiste a fait aussi l'affiche officielle, un très beau dessin plein de références au pays. Hirondelle, musique, oyer, de l'eau. Regina est la réalisatrice du film portugais le plus récompensé au monde et qui s'intitule « Histoire tragique avec une fin heureuse » sorti en 2005. Une histoire qui raconte en noir et blanc la tourmente et la libération d'une fille dont le cœur battait plus vite que celui des autres personnes. Je vous propose d'écouter un extrait sonore de ce très beau film.
Il était une fois une petite fille dont le cœur battait plus vite que celui des autres personnes. Ça dérangeait les gens à cause du bruit.
Et ce n'est pas une porte qui se ferme, mais plutôt une porte qui s'ouvre au monde de Regina à écouter dans un instant. Je suis accompagnée de Elena Scaplan-Crozera qui va nous lire un petit texte biographique sur la vie de Regina Pessoa.
Regina Pessoa est née et a grandi dans un village proche de Coimbra au Portugal. Elle commence à dessiner sur les cahiers de sa sœur et sur les murs de la maison avec du charbon des feux de cheminée. Toujours curieuse et passionnée d'art, elle débarque à l'école de beaux-arts à Porto pour se former en peinture. À Porto, elle rencontre Abi Feijó et commence à faire de l'animation. Cette rencontre a été fondatrice d'une belle carrière et des films remarquables comme La Nuit, Histoire tragique avec une fin heureuse, Kali, le petit vampire, L'oncle Thomas. Regina Pessoa habite au Portugal, plus précisément à Lousada, au même endroit que la Casa Museu de Vilar, un musée dédié au pré-cinéma et à l'animation.
Merci Elena, merci beaucoup. Par les traits de Regina, nous plongeons dans un univers à la fois sombre et tendre, plein de peur et plein d'espoir, d'obscurité et de lumière, d'une beauté délicate et d'une sensibilité profonde. Écoutons donc les origines artistiques de Regina Pessoa. Regina, un grand merci d'être là et de partager un peu de ton histoire avec nous et de ta vision aussi.
Merci de m'avoir invitée et je suis ravie avec cette rencontre.
Merci beaucoup. Commençons par ton enfance et comment as-tu développé ce goût par le dessin ta veine artistique?
Dès que je me souviens de moi-même, je me souviens que j'aimais dessiner. J'ai plein de petites histoires de quand j'étais petite, par exemple. Je suis grandie dans un Portugal qui sortait de la Révolution. Donc, d'une façon générale, toutes les familles étaient pauvres et la mienne, ce n'était pas une exception. Et tous les matériaux qu'aujourd'hui existent en abondance et que les enfants ne volent même plus, comme des papiers et des crayons, à l'époque étaient précieux et réservés uniquement à l'école. On ne pouvait pas les gaspiller. D'un coup, j'aimais dessiner et j'avais pas du papier ni des crayons. Et ma sœur, qui était plus âgée que moi de 5 ans, était déjà à l'école. J'étais pas encore à l'école, je devrais avoir 3 ans, 4 ans. Elle me donnait ses cahiers déjà utilisés à l'école. Quand elle finissait un cahier, elle me le donnait Et il avait la barre en haut et en bas, et c'est là que je dessinais. Donc, je profitais de tous les espaces disponibles qui n'étaient pas écrits. Et je me souviens très bien que je passais une période, un peu comme Picasso, j'ai passé ma période où je dessinais des petits personnages avec des mains énormes. Et une histoire drôle, c'est qu'un jour, on n'avait pas de crayon, et même ma sœur, du matériel commun de l'école, avait pris genre un crayon jaune et un crayon bleu. Je ne sais pas si autorisé ou pas, mais elle a appris à la maison. Et d'un coup, je faisais de la peinture de mon dessin avec ces deux crayons, le jaune, le bleu. Et le jaune a glissé sur le bleu. Et j'ai vu que c'était vert et je ne pouvais pas croire à mes yeux. Et j'appelle ma sœur, viens voir, viens voir, viens voir. Regarde, regarde, c'est vert, c'est vert. Et ma sœur était, oh, on raconte à personne. D'un coup, parfois je rigole et je raconte aux gens, moi, c'est moi qui ai inventé le vert. Le vert est à moi. Donc voilà, une des façons originales que j'ai commencé à dessiner.
Il y a aussi les dessins sur les murs aussi.
Ça, c'était encore une autre, peut-être encore plus impactante, parce que on avait un oncle Thomas, qui n'était pas marié, c'était le vieux garçon de la famille. Il n'avait pas un travail régulier, et d'un coup, il était très gentil. C'était un homme hors du commun parce qu'il a une éducation très simple, il n'a pas fait de grandes études, mais il était très gentil avec nous et très généreux avec nous, ses petits neveux. Et par exemple, quand on nous prenait dans les promenades, dans la campagne, on regardait l'endroit où on habitait dans notre angle. Mais quand il pleuvait, on ne pouvait pas faire ça. Alors, il a dit, allez, les enfants, aujourd'hui, on va dessiner. Et bien sûr, je répète ce que j'avais dit. On n'avait pas de papier et des crayons pour gaspiller. Mais il nous a montré une autre façon. Il nous a montré aussi quelque chose de très précieux, que si on veut être créatif, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obstacle. D'un coup, il a dit, allez, on va dessiner. Et il prenait du charbon de la cheminée. Dans chaque maison au village, il avait une cheminée. C'est là que c'était le centre social de la famille. C'était autour de la cheminée où les gens cuisinaient, mangeaient, et il restait le charbon. Alors il prenait et allait, on nous faisait dessiner des grands dessins de grande taille dans les murs de sa maison. Donc c'était très riche, cette expérience, parce que elle m'a montré plusieurs choses. Comme j'ai déjà dit, ça m'a appris qu'il n'y avait pas de limite pour la création. Mais ça m'a appris aussi parfois, quand on est créatif, on est un peu subversif aussi. Parce que je savais que dans les maisons des autres enfants du village, ce n'était pas permis de dessiner dans les murs de la maison. Mais chez oncle Thomas, c'était permis. Et être guidé par un adulte dans ce acte, c'était très spécial aussi.
Et les dessins restaient dans la maison longtemps?
Oui, les dessins restaient. Comme c'était du charbon, parfois le charbon c'est comme de la poussière, ça s'évanouissait un peu, mais ça restait. Et même quand oncle Thomas a décédé, j'ai encore pris en photo quelques dessins qui restaient. Donc voilà plusieurs aspects de cet acte inhabituel de dessiner. Encore un autre, c'est que c'était des matériaux pas conventionnels et des tailles de dessin pas conventionnelles non plus, ni le support non plus. D'un coup, bien sûr que ça donnait des résultats surprenants quand on est sort de la zone de confort. C'est très différent de dessiner sur un petit papier comme on a l'habitude et dessiner des dessins de grande taille avec des matériaux qu'on n'a pas l'habitude. Et donc, ces différents facteurs de cet acte un peu subversif a fait un grand impact dans ma formation. Et je me demande encore, parce que c'était des dessins noirs et blancs, c'était du charbon sur les murs blancs de la maison. Et d'un coup, je me demande, peut-être ça a eu un impact aussi sur la façon comment mon style personnel, mon langage personnel a évolué.
Et tout ça, ça s'est rejoint un peu dans un amour. Peut-être une vocation artistique qui a commencé quand... C'est quand que tu as senti que tu allais être artiste?
Toujours. Et ma famille, comme j'ai dit, était très simple, très humble, très, d'origine très pauvre. Mais mon grand-père avait une petite compagnie familiale où il faisait... ça n'existe plus. C'était... notre région est du calcaire et à l'époque les constructions, par exemple, autour des fenêtres, ça demandait de travailler la pierre, faire ces belles entourages des fenêtres toutes sculptées. Et c'est mon grand-père faisait ça. D'un coup, d'une façon simple, ils avaient un grand goût pour les arts et pour les artistes. Les gens qui savaient dessiner pour être potentiellement bons à travailler la pierre, à sculpter la pierre. D'un coup, quand j'ai démontré mon goût pour le dessin, les gens m'encourageaient beaucoup, même s'ils étaient d'une origine simple.
Oui, oui, et en plus, à l'époque, parce que le Portugal était pas comme aujourd'hui, donc dans un village rural, un milieu petit, donc j'imagine que ce choix, en tout cas pour beaucoup de personnes, n'est pas toujours accepté.
Exact, plus tard, quand j'ai entré à l'université, en échangeant avec mes collègues, beaucoup de collègues, ses parents n'étaient pas d'accord. Les parents étaient contrariés parce qu'être artiste, c'était pas. Ils voyaient ça avec, comme un métier, qu'il n'y a pas grand avenir d'être artiste. Et moi, au contraire, quand j'ai entré à l'université, mon papa, il a eu l'école primaire seulement comme éducation, il était ravi. D'un coup, à ce niveau, les gens étaient contents que je démontre cette vocation artistique.
Et tu as choisi le cours de peinture à l'école de Beaux-Arts à Porto. Et à l'époque, jeune de 16-17 ans, comment tu t'imaginais en tant qu'artiste?
J'ai fini encore le lycée à Porto avant d'aller. J'ai fait une école à Porto que c'est Soares do Reis et j'ai adoré cette école. C'était extraordinaire. Les profs, ils nous encourageaient, ils nous motivaient, ils nous poussaient à aller plus loin. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Et j'ai pensé, donc l'année suivante, j'irai à l'université, j'ai pensé que l'école de Beaux-Arts serait comme ça. Et pas du tout. C'était comme une douche froide. J'ai trouvé des professeurs très traditionnels, très coincés, je dirais, et très figés dans une méthode trop académique, mais pas intéressante au niveau artistique. D'un coup, c'était plutôt avec l'échange avec les collègues qui venaient de partout au pays, on se rassemblait à l'université. Ça, c'était la richesse de ma formation, c'était cet échange, plutôt que les profs que j'ai eus. Ça, c'était plutôt une déception. Mais je me suis engagée à finir mes études, à continuer mes études, parce que c'était très important pour mon papa. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai raconté à mon papa, parce que j'étais pauvre, j'avais besoin de travailler pour payer mes études. Mon papa était en panique, il a dit, mais tu finis ton... Tu finis l'université.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
C'est aussi une fierté pour la famille d'avoir quelqu'un qui a fait l'université et des études artistiques.
Oui, surtout dans le Portugal de,
absolument.
De où il venait, quoi. Qu'il il aurait voulu étudier, il n'a pas eu l'opportunité.
Et il y a un moment où tout change. Comment as-tu rencontré l'animation et le cinéma d'animation?
Justement, comme je disais, les études aux Beaux-Arts sont chères, les matériaux sont très chers. Et si, même les livres, bien sûr, il avait les bibliothèques, mais si jamais on voulait acheter un magazine d'art ou un bon bouquin d'art, c'est extrêmement cher. J'avais une bourse, mais c'était une petite bourse. Et je cherchais toujours des part-time pour m'aider à payer mes études. Et à un moment donné, quelqu'un m'a dit, Regina, il y a ce petit studio ici à côté des Beaux-Arts. Il commence un film et il cherche des gens pour travailler sur ce film. Parce qu'à l'époque, bien sûr, il n'avait pas d'école d'animation au Portugal, ni même des cours d'animation au Beaux-Arts. Il n'avait rien en animation. Et moi, je ne connaissais pas l'animation. Il faut dire que j'ai grandi. Il n'avait pas jamais eu de télé chez moi. Donc, j'ai grandi sans aucune éducation dans l'image en mouvement. Il y a quand même une histoire, une autre histoire. J'aime raconter des histoires. J'espère que
avec grand plaisir.
Pas gaspiller tout le temps. Quand j'étais petite, aussi à 4 ans, le premier film que j'ai vu projeté dans une salle avec des spectateurs, c'était La Ruée vers l'or de Chaplin. Et je l'ai vu parce que après la Révolution, beaucoup de gens étaient enthousiaste et contagié par cet esprit de partage, d'éduquer le peuple qui a été tellement suffoqué par le dictateur. Et là, dans le village, c'était un petit village, mais il y en avait un petit théâtre que le peuple avait construit parce qu'ils aimaient faire le théâtre. Et un jour, un monsieur est apparu avec une 4L, avec un projecteur. Et il a installé un écran là dans le petit théâtre du village et a offert des séances de films de Chaplin au peuple. Et encore ma soeur, plus âgée que moi, on habitait à côté, elle a dit « Allez, on y va !» Et on est allé et ça m'a merveillée. Un film encore noir et blanc. Et je me souviens très bien de la scène où Chaplin mange ses bottes. Et moi et ma sœur, on avait toujours faim. il jouait tellement bien qu'on se chuchotait une à l'autre. Ah, ça doit être du chocolat. Parce que c'était noir et blanc. Beaucoup d'années plus tard, j'étais ici en France à faire Histoire tragique avec Fan Rose, en coproduction avec un studio qui s'appelle Folimage. Et je parlais, je appelais tous les jours Abby pour voir comment ça allait. Et Abby m'a dit, Regina, tu peux pas imaginer ce qui m'est arrivé. Ils étaient dans un festival, ils dînaient avec un critique très important au Portugal, António Loja Neves, qui cependant est décédé, mais il a été très important. Et il parlait des années de la Révolution. Et cet ami critique de cinéma a dit « Ah, moi, j'étais tellement enthousiasmée avec la Révolution que j'ai montré des films de Chaplin dans le village. » Et elle a dit « Ah oui, mais Regina, elle me raconte que toute petite, à 4 ans, blablabla. » Elle dit « Mais comment s'appelle le village de Regina ?» Ah, elle a répondu « Ah, c'est ça, ça, ça. » C'était moi, je m'en souviens très bien. D'un coup, je trouve très touchant parce que parfois, on se demande, mais pourquoi je fais ce travail? C'est tellement difficile. personne ne s'intéresse à personne. Et parfois, on a ces moments de désespoir. Mais là, avec cette histoire, il faut continuer. Parce que même si il a l'air que personne ne veut rien de nous, parfois, il suffit de toucher quelqu'un comme cet homme m'a touché à moi et ça a eu un impact dans ma vie. Donc, ça a été aussi une belle histoire pour moi et pour ma carrière. Mais en revenant à la question, donc j'ai grandi sans éducation à l'image, un mouvement. D'un coup, quand les gens m'ont dit d'aller dans ce petit studio pour chercher du travail, je me suis dit, animation, je ne connais rien en animation. L'idée que j'avais, c'était l'idée cliché de tout le monde, c'est pour les enfants, c'est des cartoons, c'est des gags. Et là, mais je suis allée au studio, montrer mon portfolio. C'était Abby, qui plus tard est devenu mon copain, mon producteur, et que je ne connaissais pas. C'était lui le directeur de studio et qui dirigeait ce film qui commençait. Et Abby a vu mon portfolio avec un calme qui m'énervait. Et j'étais nerveuse naturellement. Il a passé beaucoup de temps à regarder chaque dessin sans dire un mot. Et après, il tournait la page et ça a duré. J'ai eu l'impression que ça a duré une demi-heure, quoi. Et à la fin, il a dit « Très bien, tu commences demain. » Il m'a assis à côté de lui le lendemain parce que je ne connaissais rien, quoi. Et pour m'apprendre, pour m'expliquer. Et il dit souvent que 30 ans après, je suis toujours là à côté de lui. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en animation à travailler sur les films d'Abby. Donc c'était déjà un travail professionnel. Donc il avait cette pression que je ne pouvais pas trop rater, sinon j'étais payée pour réussir, quoi. Et c'est comme ça aussi que j'ai connu cet autre côté de l'animation que je ne connaissais pas du tout. L'animation artistique, l'animation d'auteur. Et j'étais fascinée parce que j'étudiais la peinture. Donc, depuis le début, j'étais formée aux Beaux-Arts pour trouver mon style personnel, pour développer mon langage personnel. Ça c'est la carrière artistique. On était entraînés pour ça. Et là, je voyais ce même genre de visuel très riche, très organique, en mouvement. Comment c'est possible? Normalement, on fait des peintures, mais elles sont figées. Là, c'est tellement riche et en mouvement. En plus, en les croisant avec presque toutes les formes d'art, la musique, il avait l'écriture, il avait le son, il avait le langage cinéma. Et d'un coup, ça m'a vraiment fascinée que c'était possible de explorer notre langage personnel, le mouvement et la croiser avec toutes les formes.
Vous êtes sur Aligre FM, émission Lusitania, aujourd'hui consacrée à l'œuvre de Regina Pessoa, cinéaste d'animation portugaise. Nous venons d'écouter ses origines artistiques et sa rencontre avec Abby Feijó et la ville de Porto, où elle a étudié de la peinture. Continuons donc avec l'entretien à Regina sur son œuvre et une incursion sur ses films et son langage artistique personnel.
Comment s'est arrivé le moment où tout est dit, j'ai envie de raconter mes histoires?
C'était un processus parce que ce film que j'ai commencé à travailler de Abby, ça s'appelle Les Brigands et ça a été le premier film que l'Institut portugais de cinéma a donné des fonds, parce qu'avant ça il n'avait pas défendre pour les courts-métrages au Portugal. C'est que après que le Portugal a rejoint la communauté européenne, il a dû suivre aussi les règles européennes. Et d'un coup, il a eu aussi des meilleurs fonds aussi. D'un coup, c'est là que l'Institut portugais de cinéma a commencé à donner des fonds pour les courts-métrages. Et si j'ai appris avec Abby l'animation, ce que j'ai appris, c'est en travaillant sur ces films. En parallèle, ces fonds ont continué. Et après un moment, Abby nous a dit aux jeunes qui ont commencé à travailler avec lui, regardez, il y a ces fonds, ils sont disponibles. Si vous développez vos projets, vous pouvez accéder à ces fonds, vous pouvez vous candidater. Allez-y, pensez, il y a un concours maintenant, pensez à des projets. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir une opportunité de faire son film. Tout le monde rêve de ça, dans la théorie, au moins. Et c'est là que, voilà, que j'ai dit, je veux profiter de cette opportunité. Je veux la... essayer de faire la saisir. Mais quand j'ai commencé à essayer de mettre un peu les idées en place, quelle catastrophe. Parce que là, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'avais aucune formation en cinéma et en langage filmique. D'un coup, je regardais des livres, comment écrire un scénario et c'était le plus j'essayais de suivre les règles formelles, pire c'était le résultat, et plus coincée j'étais, quoi. Et Andy, en me regardant comme ça, elle dit, non, Regina, non, arrête, ne te fiche pas dans ces règles, sinon le résultat va être figé, tu vas être coincée. Non, pense juste à quelque chose que soit important pour toi. Et laisse-toi aller, parce que si c'est important pour toi, tu vas transmettre ça dans les images que tu vas créer. Et quelque part, quand le spectateur va regarder ces images, il va sentir cette force. Cette force va passer. Et ce qu'il a dit a fait beaucoup de sens pour moi. C'est comme un déclic. Et je voulais faire un film, mais je commençais, je ne savais pas par où commencer. Je me suis dit, bon, quand j'étais petite, j'avais très peur du noir. C'est un sujet très, très banal. D'un coup, ça me permet de humblement approcher ce langage cinéma que je ne connais pas. Mais comme j'ai vécu cette expérience, ça me donne aussi, je sais de quoi je parle. D'un coup, c'est par là que j'ai osé approcher la réalisation, c'était mon premier film, La Nuit, de cette façon, approcher humblement un sujet banal, mais que je connaissais bien, donc ça donnait de la crédibilité aux images que je pourrais créer.
Et donc, La Nuit, pour nos auditeurs, c'est un court-métrage d'animation que tu as fait. Le personnage principal, c'est une fille qui est justement à peur du noir. Et il y a des choses qui se passent dans le film qu'elle va un peu jongler ou faire le parcours entre la peur et le confort, on va dire comme ça. C'est un très joli film. Et pour moi, il est en effet le premier chapitre de, justement avec cette peur et cette noire, d'une autre chose qu'on va trouver sur Histoire tragique avec une fin heureuse, où on voit aussi la question de l'enfance, et on a aussi l'autre court-métrage qui est Kali, le petit vampire. Et dans ces trois films, on voit des enfants, ou en tout cas ça nous touche à notre enfance, au le vécu de l'enfance, de gérer la peur, de s'approprier des autres. Et du coup, j'aimerais bien t'entendre parler un petit peu de la force de ces histoires, parce que comme Abby t'a dit, si elles sont importantes pour toi, ça va toucher le spectateur. Donc j'aimerais bien t'entendre sur ça.
Bon, au niveau personnel, mon enfance, j'ai grandi, comme j'ai déjà dit, dans ce Portugal rural, juste après la Révolution, donc un Portugal très très pauvre, une famille très très pauvre et dysfonctionnelle. Ma maman, elle avait de la schizophrénie et mon papa, il était alcoolique. D'un coup, cette enfance a eu un impact tellement fort dans ma vie, je crois que je suis encore là. J'ai encore plein de choses à dire là-dedans. C'était overwhelming, comme disent les Anglais. Quand j'ai eu l'opportunité de réaliser, comme j'ai dit, j'ai osé pas parler des grands thèmes comme Abby, il est bon par exemple, à parler de la mémoire collective de nous Portugais. Il a fait réaliser plusieurs films qui parlent au nom d'un peuple. Moi, j'avais pas ce bagage culturel. J'avais pas non plus. Je suis très timide. J'oserais jamais. Je trouverais que j'ai pas assez de bagages culturels pour parler au nom d'un peuple. Mais j'ai un bagage personnel. Et c'est le moyen que j'ai trouvé pour réaliser, c'est trouver ces petites histoires personnelles. Et d'un coup, voilà, au niveau esthétique, par exemple, mon premier film, Les peurs de l'enfance, ça donne des images cinématographiques très puissantes. L'ombre et la lumière, et j'ai trouvé que c'était en composant ces éléments, la peur du noir, et j'ai ajouté aussi, comme a été mentionné, il y a un personnage, c'est une petite fille et sa mère, et au fond c'est moi et ma maman. Et là, quand j'étais petite, j'avais peur du noir, mais ma maman m'impressionnait aussi beaucoup à cause de sa maladie. Elle n'était pas une personne normale. D'un coup, pour le film, j'ai fait une composition de ces deux éléments, la peur du noir, la peur de la mère, et comme les deux se mélangent pour voilà, composer ce film. Et j'ai découvert, après, le film a été très bien reçu, pour un premier film, et j'ai découvert quelque chose qui était très important pour moi aussi, c'est que quand on parle des petits sujets personnels, on risque d'être très universel, plus que si j'essayais de trouver un sujet très universel qui plaît à tout le monde. Et ça, c'était très intéressant, parce que, par exemple, la peur du noir, tout le monde a ça, ou souvent beaucoup d'enfants ont ça. Mais moi, j'ai ma version. J'ai mon expérience que j'ai montrée dans mon film. Parce que je peux dessiner, je peux le faire, je peux m'exprimer. Mais il y a plein de gens qui ont aussi peur de noir, qui ne savent pas dessiner, qui ne savent pas... D'un coup, j'ai découvert que ces gens s'identifiaient. Ils me remerciaient, hein, Regina, merci. Sentaient la même chose quand j'étais petite, cette terreur du noir. Et j'ai dit, waouh, ça peut être très beau de donner la voix avec mes sujets personnels à des gens qui ne peuvent pas s'exprimer comme moi je peux. Et d'un coup, dans mes prochains films, j'ai suivi cette voie. J'ai dit, alors je peux explorer d'autres sujets.
Parce que justement, en tout cas dans l'histoire tragique et aussi dans Kali, le petit vampire, on voit des thèmes que chacun peut s'identifier. Je pense en des chapitres universels dans le processus de croissance et développement de chacun. Et tu as parlé justement d'une chose que pour moi, ça m'a touchée beaucoup, c'est il y a un côté sombre, difficile, d'une souffrance des personnages, mais il y a toujours de la lumière. En fait, il y a un binôme d'obscurité-lumière qui est très parlant, je trouve.
Vous écoutez Allegre FM.
Je pense que tu as un style très original et en tout cas, on sent que le film est un film de Regina Pessoa. Et je voulais te demander quelles sont tes inspirations et tes références artistiques qui vont se retrouver dans tes dessins.
Bon, ça a commencé quand j'avais 4 ans et je dessinais avec Oncle Thomas avec du noir, du charbon sur les murs blancs. J'ai parlé aussi de Chaplin, toujours le contraste. Mm-hmm. Ma formation aux Beaux-Arts, on explore beaucoup les techniques, la matière, la richesse plastique. Quand j'ai commencé en animation, les films, quand j'ai reconnu ce niche d'animation d'auteur, les films qui m'ont plus impressionné, c'était toujours des films plutôt monochromatiques. J'ai beaucoup aimé ça. Quand j'ai développé l'histoire la nuit, il fallait faire un storyboard et j'ai pris un crayon par accident. J'ai développé le storyboard avec mon style, c'est très texturé. Et plus je développais le storyboard, plus j'aimais cette richesse de texture, de l'ombre-lumière. Je trouvais le film devrait être comme ça. Je devrais trouver une technique qui respecte ce visuel et texture et ombre et lumière. Et je me suis souvenue justement d'un film que j'avais d'un auteur que quand j'ai commencé en animation, j'avais découvert. C'est un réalisateur polonais, Piotr Domala. Et j'avais vu un film de lui que ces images, mon storyboard rappelait beaucoup ces images. Et je savais qu'il animait une technique folle, gravure sur plâtre. D'un coup, je me suis dit, peut-être je devrais essayer ça. À l'époque, l'Internet était au début, il n'avait pas moyen de le contacter. D'un coup, j'ai développé mes recherches et j'ai trouvé un moyen de faire des images qui m'ont plu et qui ont plu mon producteur, déjà Abby. Et j'ai fait le film comme ça. C'est une espèce de gravure animée où justement l'ombre et la lumière et la texture sont très très présentes et j'ai beaucoup aimé cet univers. En plus, ça va bien soit avec le sujet de la nuit, soit avec le thème de l'enfance, parce que quand on est enfant, il n'y a pas le milieu. Mm-hmm. Tout est triste ou joyeux. Il y a très peu d'équations neutres en émotion. D'un coup, ces contrastes, ces images expressionnistes, je trouve aussi que servent très bien les sujets que je traite. Et j'ai continué, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai continué à développer ce langage dans les films suivants.
Et tu as travaillé le début de ta carrière avec cette technique, gravure sur plâtre. Comment ça se fait, animation gravure sur plâtre?
Bon, c'est difficile à expliquer, mais c'est une façon d'animer que c'est, par exemple, il y a des films en peinture animée, c'est un peu la même technique. Comment ça se fait? Il y avait la caméra. Et sous la caméra, sur une table, je faisais une plaque de plâtre pour chaque scène. On a notre découpage au storyboard et pour chaque scène, je préparais une plaque de plâtre qui est blanc, mais que je couvrais totalement de cette couleur assez foncée. Et puis en grattant, c'est la lumière que... Mm-hmm. Qui est révélé, c'est comme dessiné à l'envers.
Oui.
Et ça, c'est très excitant parce que ça allait aussi avec mon histoire personnelle. Et quand j'étais petite, j'avais peur du noir, pas parce que je croyais que c'était un espace vide, c'était au contraire. Le noir, comme on voit rien, on peut imaginer tout ce qui est possible d'imaginer au monde et dans l'univers peut être là. Tous les monstres, tout peut être là. Et d'un coup, en travaillant comme ça... Oui. En travaillant comme ça, quand je gratte, c'est comme si le dessin a toujours été là. Mais je fais une ligne, oh, le dessin commence à apparaître. Et je travaille, et c'est magique pour
tu
moi.
Tu enlèves au
noir. Exact.
L'extrait du noir.
Et la lumière vient. Et ça, c'est une sensation très bonne, de laisser la lumière apparaître. C'est thérapeutique.
Mais ça prend énormément de temps.
Ça prend énormément de temps. Comme je disais, il avait la caméra, la plaque de plâtre. Je faisais l'image. Et on prend comme l'animation stop motion de photos. Et après, dans la zone de l'image où il aurait le mouvement, par exemple, si le personnage lève un bras, je changeais le bras pour la prochaine étape du mouvement, pour la prochaine position, en grattant, à nouveau à révéler le blanc, et après retoucher avec l'encre foncée, et image par image, toujours comme ça, gratter, retoucher.
Une plaque de plâtre par scène.
Par scène.
Mais aujourd'hui, tout est fait par ordinateur.
C'est pas comme ça.
Hein? Ah, mais j'imagine que c'est un métier qui a, c'est beaucoup transformé.
Oui.
Comment maintenant tu continues à travailler avec du plâtre ou?
Quand j'ai fait la nuit sur plaque de plâtre. Pour Histoire tragique, c'était ma première coproduction avec la France et le Canada. J'ai aussi utilisé du grattage, mais une autre technique. Là, c'était une feuille de papier, une gravure par image. Mais quelque part, c'était quand même plus facile parce que je pouvais avoir une équipe, une petite équipe, et partager le travail avec l'équipe. Mais j'ai utilisé à nouveau le grattage, mais sur un papier spécial. Donc, j'ai travaillé à la main. Quand j'ai fait caler le petit vampire, là, j'ai eu à nouveau une coproduction avec la France, mais avec un autre producteur qui m'a dit, imposé, il a dit, Regina, cette fois, tu ne peux pas travailler à la main, on n'accepte pas. Tu dois utiliser un logiciel. Et au début, c'était un choc pour moi, parce que de tout mon passé analogue, de tout mon parcours.
La peinture aussi, oui, c'est très manuel,
exactement,
c'est très physique.
C'était presque insultueux. Mais à un moment donné, ma tête m'a dit, attends Regina, les outils numériques, c'est les outils de nos jours. Et si tu n'apprends pas, peut-être que après sera plus trop tard et tu ne vas jamais apprendre. D'un coup, j'ai dit, ok, peut-être c'est intéressant d'apprendre. Mais il y avait une chose que je détestais dans les films que je voyais des autres auteurs faits entièrement avec des outils numériques. C'est que je reconnaissais le logiciel et pas l'artiste. Et ça, je ne voulais pas pour moi. J'avais déjà créé un langage personnel. Je voulais au contraire développer mon langage personnel et pas qu'il soit étouffé par un logiciel. D'un coup, je me suis mis à apprendre un logiciel, mais avec la condition de le faire travailler pour moi, de trouver mon langage personnel avec ce nouveau outil. D'un coup, j'ai fait, et ça c'est une étape que j'adore, les recherches.
Mm-hmm.
J'ai fait une recherche avec quel genre de ligne, quel genre de grattage j'avais besoin. J'ai fait un dossier tout à la main, comme ça, avec quel genre de brosse, de traces de brosse. Et mon équipe, c'était aussi à nouveau une coproduction avec le Canada, l'Office national des films du Canada. Mon équipe au Canada, ils sont très bons, ils ont développé des brosses numériques pour moi. Puis, avec ces brosses numériques et avec un logiciel pas commun d'utiliser en animation, finalement, j'ai utilisé Photoshop. Mm-hmm. Mais l'avantage de Photoshop est que il a été créé pour l'image et la qualité de l'image en Photoshop est vraiment bonne. Et avec ce logiciel, j'ai pu retrouver mon langage. Et j'ai pu dominer le software et j'ai appris quelque chose encore important, que c'est juste un outil. Et j'ai comparé avec mes films précédents. Sur la nuit, j'ai utilisé des plaques de plâtre. C'est juste un outil. Sur Histoire tragique, j'ai utilisé un papier spécial, un autre outil. Et là, c'est juste un autre outil, un autre support. Mais il faut que quoi qu'on utilise, ça soit qu'un support, un outil, mais que ça soit notre style qui domine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous écoutez Regina Pessoa et nous allons maintenant savoir un peu plus sur ses projets futurs.
J'ai un projet que encore plus ambitieux au niveau émotionnel, c'est sur ma maman. Comme j'ai dit, elle avait de la schizophrénie et quand elle est devenue âgée, elle a eu les mêmes problèmes que tous les gens âgés, les arthroses, elle ne pouvait plus marcher à un moment donné. Et sa maladie s'est toujours manifestée, elle avait plein d'énergie, qu'elle avait besoin de bouger dans tous les sens. Et quand elle ne pouvait plus marcher, elle est devenue compliquée à gérer. Et moi et ma soeur, on dit, mais qu'est-ce qu'on... On essayait d'inventer des choses pour la distraire. Et un jour, elle avait déjà presque 80 ans, je lui ai demandé, « Maman, et si tu me faisais un dessin ?» Et elle a éclaté de rire et dit, « Ha, 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 ok, d'accord. » Et j'ai découvert qu'elle pouvait dessiner. C'était incroyable, cette découverte. D'abord, on a fait des dessins sur papier, mais c'était un moment que les iPads ont apparu. Et on a très vite passé à l'iPad parce que c'était facile. C'était juste avec son doigt. Et j'ai développé une grosse collection de dessins de têtes avec elle. Et ce sont des dessins très naïfs, des têtes très naïfs, mais très, très puissantes, que j'aimerais utiliser dans un film. Et comme elle avait de la schizophrénie, je donnais le titre provisoire, les visages de maman, ces visages qu'elle dessinait. Parce que je trouve que ça va bien aussi avec... parce que je voulais parler de comment c'est grandir avec quelqu'un qui a... de la schizophrénie plutôt comme je la voyais avec deux enfants, deux filles dans un Portugal très pauvre. Mm-hmm. Et ils sont outils pour l'aider à gérer la situation.
Et pour ce projet, tu vas explorer la couleur autrement ou tu vas rester dans ton univers monochromatique?
Petit à petit, je commençais à introduire la couleur.
Oncle Thomas et Kali, le petit
Kali
vampire.
Kali a eu besoin de rouge. Ouais. Oncle Thomas, il y a le rouge à nouveau et le bleu et un peu de vert. Et si je fais le film sur ma maman, ses dessins étaient très colorés. Donc, j'imagine qu'il va avoir plus de couleurs.
Donc, un nouveau chapitre pour l'artiste chapitre, qui va se découvrir.
Que maintenant, c'est plutôt, déjà, Oncle Thomas était ça, c'est moi, adulte, qui vois mon enfance en perspective. La nuit, Histoire tragique et Kali, c'était moi de l'intérieur de l'enfance. C'est presque une représentation fidèle. Mais Oncle Thomas et ce film de ma maman, c'est déjà moi, adulte, qui regarde en rétrospective son enfance et les gens avec qui j'ai grandi.
Tu as un horizon temporel pour ce projet?
Là, je fais une petite pause parce que j'ai commencé à développer ce projet et j'ai eu un cancer. Je travaillais, j'exagérais beaucoup. Je dormais très peu parce que l'alimentation exige beaucoup. Et là, j'ai encore peur que c'est parce que je travaillais trop que cette maladie est apparue. Et je fais c'est pas bien une pause, c'est une réflexion pour voir comment est-ce que je peux faire un travail que j'aime et ça me forçait mon corps.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
J'aimerais bien aussi que tu nous parles sur l'animation au Portugal. Donc tu es une figure incontournable de l'animation au Portugal, tout le monde le sait. Et tu as accompagné justement l'apparition des fonds, en fait, que ça devient une discipline d'Institut de cinéma et une référence pour beaucoup d'artistes. Comment tu analyses l'évolution du cinéma d'animation au Portugal?
Le premier fond, c'était pour un film de Abby. C'est un très beau film, très fort et a très bien marché. Il a été sélectionné à l'époque, dans les années 90, dans la semaine de la critique de Cannes. Il a eu plein de prix internationaux. Et ça a marqué positivement ce début de l'animation d'auteur au Portugal. Et les générations suivantes, donc moi, José Miguel, On a été influencé par ça parce qu'on a les deux travaillé avec Abby. Moi et Jean-Miguel, on a travaillé sur les brigands, justement.
Et c'est des... parenthèse pour nos auditeurs. José Miguel, c'est José Miguel Ribeiro, l'auteur de Nayola, un réalisateur qu'on a interviewé chez Aligre FM aussi. Vous pouvez trouver le podcast.
On a été très marqué par cette... par l'attitude d'Abby, pas que le film qu'il a réalisé était très bon et très fort et très beau, mais aussi par son attitude d'intégrité artistique et honnêteté. Ça nous a marqué comme attitude. On commençait, on était jeunes et notre carrière artiste commençait aussi. Je crois qu'on a beaucoup... Abby nous a beaucoup influencé par son attitude et on a essayé de peut-être l'imiter, de la respecter. Et les projets qu'on a faits, nos premiers films, José Miguel avec un film qui s'appelle Le Suspect et moi avec La Nuit, ont très bien marché. Ça a influencé aussi la prochaine génération, ça a influencé naturellement, positivement l'Institut portugais de cinéma. Il a encouragé que ça valait la peine de donner ses fonds, continuer à soutenir l'animation. Et ça a commencé à donner origine à la prochaine génération. Je crois qu'aussi influencé par cette continuité, Abby, moi, José Miguel, des petites disciplines d'animation ont commencé à apparaître dans certaines écoles, dont l'Université catholique à Porto, où deux autres jeunes réalisateurs ont étudié. Je parle par exemple de David Dautel et Vache Coussa, qui aujourd'hui sont des réalisateurs confirmés. Je parle de Alice Guimarães et Mónica Santos, qui ont aussi étudié dans cette école et qui sont des réalisatrices confirmées. Et je parle aussi de Laura Gonçalves et Alexandre Ramírez. Elles ont étudié plutôt à Lisbonne, mais aujourd'hui sont très confirmées. Donc, d'un coup, c'était comme passer un témoin de génération en génération, où chaque génération suivante continuait ce travail de qualité et de honnêteté artistique, d'intégrité. Je crois que c'est ça qui a fait que cette année, le Portugal, ce parcours a été reconnu et le Portugal a été le pays à l'honneur à Annecy.
Justement, je voulais faire une note là-dessus. Donc, au moment où nous enregistrons cet entretien, le Festival d'Annecy est terminé depuis quelques jours. Régine a été marraine et aussi l'illustratrice de l'affiche officielle. Et Alexandre Ramírez et Laura Gonçalves ont reçu le prix Cristal pour son court-métrage Percebes, Pousse-pied en français. Donc, c'est effectivement un achèvement de la reconnaissance de l'animation portugaise à un niveau international.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Pour une autre dimension de ton engagement et ton amour vers l'animation, c'est Casa Museu de l'animation au nord de Portugal. C'est un projet où nous pouvons visiter et nous pouvons connaître un peu plus. Peux-tu nous raconter un peu plus de ce projet?
Moi et Abby, on est devenu un couple, comme j'ai déjà dit, on a un long parcours, on est complices, on est une équipe, et on habitait à Porto. Il y a 12, 14 ans, son papa est décédé, et son papa avait un grand domaine dans la région de Porto. Tous les frères et sœurs voulaient vendre, Yabi a décidé, non, ce n'est pas un bon moment pour vendre, je veux garder la maison. On est un couple, on n'a pas d'enfants, et pour garder cette maison, il fallait y habiter, sinon ce n'était pas possible. Et il fallait avoir un projet que justifiait deux âmes habiter dans une grande maison. Et depuis toujours, Abby a une passion pour le pré-cinéma. Et pour tous les les petites inventions, les petits mécanismes qui, petit à petit, ont donné origine à ce qu'on connaît aujourd'hui par cinéma, notamment les jouets d'optique. Et d'un coup, il a eu cette idée de faire, dans cette grande maison, une partie musée dédiée à l'image en mouvement. Abby, au-delà de producteur, réalisateur, il est très bon pédagogue. Et il avait une chose qui le nervait toujours, c'est il dit, mais à l'école, on apprend à compter, à écrire, on dessine un peu, mais il n'y a aucune formation dans l'image en mouvement. Et pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, on consomme ça tout le temps. Et les enfants sont gavés de vidéos. Et il n'y a aucune éducation dans l'image en mouvement et comment les gens peuvent se faire manipuler. Il faut que les gens comprennent l'autre côté de l'image en mouvement parce qu'il n'y a jamais une image innocente. Il a raison. Juste le choix de la caméra ou du cadre, c'est un acte volontaire de quelqu'un. C'est une décision réfléchie. Et d'un coup, avec ce principe, on a commencé notre musée qui est composé de 3 salles. Une dédiée au pré-cinéma, justement, parce que dans ce parcours, les gens comprennent pourquoi on voit une illusion, parce que c'est toujours une illusion. De l'image en mouvement. Pourquoi on a l'impression que des images séparées bougent. Après, il y a une salle, parce que lui et moi, on est aussi des réalisateurs, avec des originaux de notre travail. Et après, il y a une troisième salle avec ce qu'on appelle l'animation internationale, mais de notre niche de l'animation d'auteur, qui est tellement riche en technique, en sujet, un peu de partout au monde. Donc, on a cette salle aussi. On a aussi un studio et avec 3 salles. On a une bibliothèque que avec des livres d'animation et une salle pour projection atelier, parce que depuis qu'on a déménagé, Abby a fait un accord avec les écoles de la municipalité. Les écoles, c'est un parcours complet. Les écoles viennent, les classes viennent, font une visite au musée comme premier contact, puis développent une histoire qu'ils eux-mêmes créent avec Abby. Après, ils font l'animation. C'est eux qui animent. Ils font le son, les voix. Et après, il y a une projection publique avec tous les films, avec chacune des écoles. Une séance commune avec les enfants, les profs. Et le maire donne un petit diplôme à chaque enfant. Donc, c'est un très, très beau projet.
Merci, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pendant cette heure. Nous avons connu un peu plus de la carrière et l'univers personnel et artistique de Regina Pessoa, cinéaste d'animation portugaise et autrice du film le plus primé de l'histoire du cinéma portugais, c'est l'histoire tragique avec une fin heureuse. Là, elle vient de nous parler de Casa Museu de Vilar, au nord du Portugal, pas très loin de Porto, où nous pouvons apprendre plus sur son projet et le cinéma d'animation.
Aligre FM 93.1.